Bonjour à tous, il est midi. Il est midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite les titres du journal de 12h30, présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline. Et d'abord, l'échec annoncé des négociations sur l'assurance chômage. Les partenaires sociaux se retrouvent tout à l'heure au siège du MEDEF pour une huitième et dernière séance. Ils s'acheminent vers un constat de désaccord, notamment après le refus du MEDEF de moduler les cotisations patronales. Toutefois, pour ce qui est des intermittents, le gouvernement a accepté de compenser le manque à gagner pour l'assurance chômage d'une mise en œuvre du récent accord sur leur régime spécifique. Plusieurs responsables de la gauche du PS s'élèvent ce matin contre la menace par l'exécutif d'interdire de nouvelles manifestations contre le projet de la loi travail. Sur France Culture ce matin, Arnaud Montebourg dénonçait un coup de force permanent. Le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon parle d'une dérive autoritaire du gouvernement. Au PS en tout cas, la primaire s'éloigne. Le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis ne ferme pas la porte à la convocation d'un congrès extraordinaire pour modifier les statuts du parti et dispenser François Hollande de participer à une primaire. La tendance se confirme en Grande-Bretagne. Nous sommes à une semaine du référendum. Nouveau sondage ce matin pour le Evening Standard. 53% des Britanniques se déclarent favorables à une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et puis il y a une nouvelle décision de justice sur Vincent Lambert. Le jeune homme est dans un état végétatif depuis 2008. Ses parents souhaitent son maintien en vie. Et ce matin, la Cour administrative d'appel de Nancy ordonne aux médecins de reprendre la procédure qui pourrait conduire à l'arrêt des soins. C'est Antoine Maret qui reviendra sur cette décision. L'invité de la séquence interview, Pascal Cherki, député socialiste de Paris, député frondeur. C'est tout de suite la première partie de la Grande Table. Caroline Brouet.
Merci Antoine, merci. On vous retrouve à 12h30 et pour commencer cette émission, rencontre avec un jeune aigle. Bonjour Geoffroy Couteau.
Bonjour.
Le jeune aigle, au départ, ce n'est pas vous, Geoffroy Couteau. C'est le surnom que Robert Schumann avait donné à Johannes Brahms après leur première rencontre en 1853. Brahms, à qui vous vous donnez depuis que vous avez remporté en 2005, à l'âge de 26 ans, le premier prix du concours international Brahms en Autriche. Vous lui avez consacré votre premier disque à ses dernières œuvres, à lui, Brahms. Et puis en mars dernier, vous avez sorti en coffret de 6 CD l'intégrale de la musique pour piano seul sur le label Dolce Vita. Est-ce parce que vous voulez devenir à votre tour le jeune aigle?
Alors Dolce Volta pour
Dolce
le, pour
Volta,
le,
j'étais sûr que j'allais le faire. Voilà, j'avais écrit
un
Dolce Volta.
Il fallait le faire pour qu'on s'en souvienne. Voilà. Et votre question était si non. Enfin, je pense que le c'était plus un voyage vers moi. Enfin, une volonté de découvrir et d'aller jusqu'au bout de ce que je pouvais avec ce compositeur.
D'où vous vient cette complicité, cette affinité avec Brahms?
Ça c'est incompréhensible, c'est un peu comme la magie des relations humaines, on ne sait pas pourquoi on peut tomber amoureux de quelqu'un et il se trouve que Brahms m'a toujours accompagné dans des moments qui étaient un peu, j'allais dire, stratégiques de développement, c'est-à-dire que le moment où j'ai commencé à avoir dans la tête que je voulais vivre dans la musique, avec la musique et pour la musique, ça s'est fait avec Brahms, donc j'avais 16 ans. Et ensuite, il se trouve que quand je suis rentré au CNSM, donc le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, l'imposé était Brahms. Et enfin, il y avait un imposé qui était de Brahms. Et puis, après, on ne sait pas pourquoi, mais il y a certains compositeurs avec lesquels on se sent à l'aise, on se sent chez soi. Et donc, c'est quelque chose que j'ai voulu creuser, puisque c'était une évidence, en tout cas, à la fois moi, intime, quand je le jouais, mais aussi des retours que j'avais. Donc, je me suis dit, bon.
Il faut
pas chercher ailleurs, il y a quelque chose là à creuser. Voilà.
Alors vous êtes pianiste donc, mais Brahms n'a pas composé que de la musique pour piano, bien entendu. Quelle place a le piano dans l'œuvre globale de Brahms?
La place d'un confident et d'un premier témoin de, parce qu'en fait, le paradoxe de l'écriture de Brahms, si on pense à l'œuvre totale, c'est-à-dire symphonique, musique de chambre et le chant, l'orgue, il se trouve que quand Brahms compose une sonate pour piano, on a l'impression que c'est de l'orchestre. Et il se trouve que quand il compose une symphonie, on sent qu'il y a une pensée pianistique. Donc il y a quelque chose qui est inséparable de cette écriture, une espèce de miroir comme ça, qui a, je pense, été une nourriture pour Brahms dans sa recherche harmonique, dans sa recherche du son, dans sa recherche expressive, et qu'on ne peut pas séparer. Donc c'est intéressant de... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'aborde, moi, dans le, quand je joue une sonate, j'essaye de le penser orchestre, et je pense qu'un chef, quand il joue une symphonie, malgré la diversité des timbres, il y a quelque chose dans le noyau musical, dans l'idée musicale, qui se rapporte à quelque chose d'un instrument à clavier.
Geoffroy Couteau, sur cet album qui contient donc toute l'œuvre pour piano seul en 6 CD. La particularité de votre choix, c'est de l'avoir construit dans l'ordre chronologique de sa composition, à savoir de 1851 à 1893, sachant que Brahms est mort très peu de temps après.
97,
voilà. Est-ce que c'était pour montrer l'évolution du compositeur? Vous parlez d'une traversée oui. musicale, traversée dans le temps.
Ben, disons que quand on a le projet d'enregistrer toute l'œuvre, après, il y a la question de savoir comment on va la présenter. Est-ce qu'on fait des associations de parenté entre certaines œuvres, donc qui ne seront pas chronologiques, ou est-ce qu'on présente justement l'évolution, la traversée de la vie d'un compositeur? Et moi, ça m'a semblé intéressant de la présenter de cette manière-là, d'une part parce que ça n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'en général les intégrales qui ont été enregistrées avant ont été enregistrées justement en associant des œuvres les unes avec les autres, parce que en fait il y avait une publication disque par disque, donc étalée sur plusieurs années. Et là, moi, en fait, le projet était vraiment d'enregistrer tout en même temps, et donc de pouvoir donner ce fil conducteur qui est quand même pour des auditeurs un peu passionnés, parce que bon, évidemment, on a le droit de piocher dedans, mais quelqu'un qui a envie de faire cette traversée, bah c'est possible en mettant à la suite et sans se prendre la tête, j'allais dire, sur la date de composition. Et surtout, j'ai mis en plus, pas le numéro donc d'opus, puisque le numéro d'opus, c'est la date de parution, mais j'ai choisi la date de composition, qui n'est pas forcément dans le même ordre que la date de parution.
Alors, on peut être passionné et néophyte, et je dois reconnaître que la date de composition est plus immédiatement compréhensible pour des néophytes que les numéros des opus, en effet. Absolument. Là, on entend un extrait, un mouvement de la sonate numéro 1 en Do majeur, qui a été composée donc en 1852-1853. Les sonates, ça a été les premières composition. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette évolution? Vous disiez, Geoffroy Couteau, que justement cette construction chronologique, on n'était pas obligé de l'écouter dans ce sens-là, mais qu'elle vous a paru importante. Qu'est-ce qui vous a frappé? Une totale, dans cette traversée, diversité, ou au contraire, une unité, une cohérence, une continuité?
Ben, j'ai envie de dire les deux, parce que cet univers m'a fasciné, c'est qu'évidemment, Brahms est un compositeur qui a cherché à évoluer, mais autour d'idées qui l'ont presque obsédé. Par exemple, l'idée de la variation, de la construction, donc de tourner autour de quelque chose en la présentant toujours différemment. Bon, Brahms est vraiment un génie de la variation. Donc, il a composé pas mal de cycles de variations pour l'œuvre de piano seul, mais on rencontre les variations aussi dans les sonates et de toute façon quasiment dans toutes ses pièces, dans les symphonies bien sûr, et voilà. Donc c'était une occasion de creuser effectivement ce noyau, ce matériau sonore qui était particulier, propre à lui, où il a eu quand même une approche singulière dans le temps, puisque Brahms était quelqu'un qui admirait, qui connaissait très bien les compositeurs du passé. Et il a ce côté un peu tourné vers le passé. Il n'a pas voulu se positionner politiquement dans l'art. En tout cas, il y a eu des petites frictions politiques avec Liszt. Et bon, tout ça, c'est pas forcément très, très intéressant. Mais en tout cas, il a voulu s'en détacher. Et bon, c'est vrai que c'est un univers à part entière.
Oui, donc on peut pas dire très schématiquement, Brahms, enfin l'œuvre pour piano de Brahms, c'est de la musique romantique. Ce serait vraiment réducteur.
C'est réducteur, mais en même temps, c'est une réalité quand même, puisque il est bien ancré dans son siècle aussi, dans cette manière de. J'ai dit tout à l'heure que c'était l'instrument, le piano était un petit peu son premier objet à qui il allait s'adresser.
Il était pianiste lui-même, il faut dire.
Ah oui, il est immense pianiste. C'est vrai que. C'est une position de romantique, quoi. Enfin, de quelqu'un qui quand même cherche à exprimer quelque chose qui se passe en soi. Donc c'était pas la démarche d'un créateur à l'époque des Lumières.
Alors vous disiez tout à l'heure, Geoffroy Couteau, que dans la musique orchestrale, on pouvait entendre un instrument comme le piano, et que dans la musique pianistique, on pouvait entendre de l'orchestre. Je voudrais vous proposer d'écouter cette archive INA qui date de 1966, d'un pianiste américain, Julius Katchen, qui a lui-même interprété l'œuvre de Brahms pour piano. Voilà ce qu'il dit.
Pour moi, c'est une chaleur de sonorité que je qualifie toujours avec des couleurs pourpres. Pour moi, il y a le côté d'une chaleur humaine, immense dans tout ça, que justement m'attire vers Brahms. Et c'est vrai que c'est orchestral, surtout dans ses premières œuvres, qui sont des œuvres, les grandes sonates, les grandes théories des variations, qui sont écrites en grande forme, où il a voulu conquérir le monde. C'est le jeune Brahms optimiste. Et là, on sent le côté orchestral. Mais dans les dernières œuvres, et peut-être ça que je préfère de tout en Brahms, c'est la poésie intime. C'est Brahms qui se met au piano, qui joue pour lui tout seul. C'est pas l'homme qui veut conquérir le public, mais l'homme qui traduit sa tristesse, son amertume, tout le côté dans sa vie qui n'était pas réussi et qui l'exprime d'une façon poignante et particulièrement personnelle.
Vous êtes d'accord, Geoffroy Couteau ?
Absolument. Oui, pour moi, aucune... Enfin, je suis parfaitement d'accord avec tous ces propos.
Alors, on a commencé avec les sonates. Bien sûr, le cycle évolue. Vous allez jusqu'aux pièces les plus tardives que vous aviez donc déjà enregistrées, les quatre derniers cycles dans le premier disque que vous aviez consacré à Brahms. Au milieu, donc, apparaît ce cycle de variations dont vous disiez que les variations occupent une place centrale dans l'œuvre de Brahms. Les variations, c'est l'objet de cinq opus dans celle qui est consacrée au piano. Geoffroy Couteau, qu'est-ce que ça veut dire ?
Et bien que cette forme l'attirait, je pense qu'il se sentait à l'aise avec elle, et que ça a été aussi une période où il était de reconnaissance, puisqu'il avait déjà eu, il était installé dans le milieu, et c'était un moment où il cherchait à développer son écriture. Effectivement, ce sont de très grands cycles, particulièrement les variations sur un thème de Handel, qui sont un sommet dans les cycles de variations des grands compositeurs. Donc c'est vraiment quelque chose où justement il atteint une concision, une variété avec une unité Donc c'est tous ces opposés qui forment une tension musicale qui donne un côté génial à ces œuvres.
Les variations sont un fil rouge et finalement on pourrait aussi dire que Schumann est un autre fil rouge.
Sûr.
On a commencé sur le Jeune Aigle, il était très proche des Schumann, en particulier de Clara, très proche. Et voilà cette variation sur un thème de Robert Schumann en fa dièse mineur, créé en 1854, dédié à Clara. Vous nous en direz un mot après. Triste quand même ce qu'on entend là, Geoffroy Couteau.
Oui, mais alors là, en l'occurrence, c'est du Schumann, puisque c'est l'œuvre de Schumann
c'est
qui a été
une variation sûre.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est dans les Bunteblätter, opus 99 de Schumann. Et en fait, la particularité de cette pièce, effectivement, c'est que il a donc écrit des variations qu'il a dédiées à Clara. Et évidemment, il y a une passion entre Clara et Johannes qui a été alors très complexe certainement à gérer puisque bon, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé puisque Clara a décidé de brûler toutes les lettres de la correspondance qu'il y a eu entre Johannes, Brahms et Clara. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont restés proches toute leur vie et que Clara a eu un rôle de lui demander ce qu'elle pensait des œuvres qu'il venait de composer, si c'était valable ou pas, s'il pouvait les publier, si comment elle s'engageait aussi en disant bah ça tu devrais faire ce passage différemment. Bon voilà, donc ils ont eu une relation à la fois affective certainement très forte, mais en plus une relation de métier constructive qui les ont fait avancer et l'un et l'autre. Elle a créé beaucoup de ses œuvres. Et donc, elle était aussi elle-même engagée comme un peu défenseuse de la musique de Brahms. Donc, c'est une des œuvres les plus particulières où il y a vraiment un côté très intimiste. C'est pas une pièce jouée en public, assez peu souvent en public, parce que justement intime. Et donc, c'est plus sur le ton de la confidence que sur le ton de la conquête, bien que ce soit le plus neuf.
Finalement, Geoffroy Couteau, dans cette ballade numéro 1 en ré mineur, dite Edward, qui a été composée en 1854, on entend cette même veine nostalgique. Vous dites que les ballades qui viennent juste après le cycle des variations constituent une porte d'entrée privilégiée dans l'imaginaire de l'œuvre pianistique de Brahms. De quelle façon ?
Eh bien, parce que je trouve qu'on retrouve enfin, on disait tout à l'heure qu'effectivement, il y avait une évolution, une forme d'évolution dans son écriture avec des constances, mais que finalement, en fait, dans cette pièce-là particulièrement, le côté un peu rugueux, âpre, proche de l'univers fantastique, avec un récit et quelque chose en même temps d'intime et de puissant, c'est ce qu'on va retrouver dans les derniers opus. Et qui convient parfaitement à l'instrument, au piano, avec une couleur qu'on demande au pianiste, et donc un toucher qui se doit d'être à la fois tendre et charpenté. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à réaliser, mais c'est vraiment quelque chose.
Je veux bien le croire. Tendre et charpenté, c'est pas facile.
C'est ça. Donc il faut quelqu'un de un peu solide, mais quand même un peu enveloppé dans le son. C'est vraiment ça, et dans l'expression. Donc c'est une structure à donner, à la fois donc un rubato, c'est-à-dire une liberté, mais quelque chose de très guidé.
Geoffroy Couteau, vous parlez de ce jeu qui est le vôtre, tendre et charpenté, en tous les cas pour cette balade. Là, précisément, je voudrais vous proposer d'écouter le musicologue et critique Claude Rostand. On est toujours en 1966, on plonge dans l'histoire, parlant de la façon dont on peut jouer, dont on doit jouer ces œuvres pour piano de Brahms. Écoutez-le.
C'est d'abord une performance pianistique dans l'ordre sportif et musculaire, si vous voulez, parce que l'intégralité de la musique de Brahms exige du pianiste qu'il dégage un certain nombre de kilogrammètres secondes assez impressionnant. Parce que la musique de Brahms, justement la musique de piano, à mon sens, est caractéristique par cette écriture un peu symphonique. Et ça n'est pas le piano virtuose, romantique, ça n'est pas le piano joliment orné, gracieux, perlé, etc. C'est une écriture qu'on lui a souvent reprochée. On a dit qu'il écrivait pour le piano comme pour l'orchestre, mais je crois que justement il a trouvé l'écriture de sa musique, l'écriture de sa poétique musicale. On trouve des choses assez curieuses chez Brahms qui n'existent chez aucun autre musicien romantique, des doublures d'octaves comme dans l'orchestre, ou bien des suites, des grandes suites de sixtes ou de tierces aux deux mains, qui sont également comme ça se fait dans l'écriture de l'orchestre. Et c'est ça qui donne à cette musique cette épaisseur, cette densité, cette musculature, cette carrure, qui en fait le caractère exceptionnel et qui précisément exige cet effort musculaire particulier.
Finalement, elle est peut-être là, la clé, Geoffroy Couteau, de compréhension entre vous et Brahms, de cette complicité, de cette affinité, puisque vous êtes venu au piano après avoir pratiqué la gymnastique à haut niveau. Donc on retrouve cette idée de musculature, de performance pianistique dense. Est-ce que vous jouez avec le corps, vous aussi?
Le corps est nécessairement le transmetteur de ce qu'on a envie d'exprimer. Donc il fait partie du langage. On a tous une forme d'énergie et un corps qui est unique. Et c'est vrai que un interprète, je disais que tout à l'heure je me sentais chez moi, mais effectivement peut-être que cette configuration particulière entre le clavier, ce qu'il réclame, et mon corps, ma main, ma musculature, a fait que je me sentais à l'aise dans cette écriture, et l'univers bien sûr, sentimental.
Thank you.
Après les ballades, Geoffroy Couteau, viennent les danses avec ses valses. D'abord, ses valses écrites en 1867. Brahms dit qu'il vient de composer 16 innocentes petites valses en forme schubertienne. Et là, on entendait la valse numéro 15 en la bémol majeur. 16 valses, elles forment un ensemble cohérent ?
Oui. De tonalité et de diversité. Donc, en général, on les joue les 16 ensemble, puisqu'elles s'enchaînent, elles sont faites quand même pour être enchaînées, mais en même temps, on peut aussi en prendre quelques-unes et les jouer de manière diversifiée.
Les valses introduisent nécessairement aux danses hongroises. Oui. Alors, les danses hongroises, c'est un gros morceau, c'est 21 danses déjà. Oui. Et puis, c'est sans doute l'œuvre pour piano de Brahms la plus connue du grand public. Comment on aborde une œuvre plus connue que les autres, comme les danses hongroises ?
En l'occurrence, là, les danses hongroises, c'est vraiment un contexte qui est particulier, puisque en fait, elles ont été composées pour quatre mains. Et c'est Brahms lui-même qui a donc écrit la transcription, et il n'en a écrit que, enfin la transcription, que de 10 des 21.
Pour demain.
Et ce sont déjà pour quatre mains des pièces extrêmement virtuoses, et alors pour piano seul, c'est un peu délirant. Donc là, c'est vraiment quelque chose de redoutable, et c'est un challenge sportif quasiment, quoi, ça c'est sûr.
On y revient.
Donc oui, mais en même temps, c'est formidablement écrit et inventif, et c'est de la musique légère, quoi. On est quelque chose dans la joie de bouger, de communiquer, d'aller dans tous les sens.
Allez, on écoute la danse numéro 1 en sol mineur. Brahms était donc lui-même un pianiste, un grand pianiste, nous disiez-vous. Est-ce qu'il donnait des instructions particulières sur les quatrièmes de couverture des pochettes ? On en voit beaucoup, des poco, alors je ne parle pas italien, mais poco, sostenuto, gracioso, vivalto, vivace, etc.
Oui, forcément, il s'adressait. Enfin, en même temps, bon, ça reste toujours des termes de plus de climat. Il laisse un choix à l'interprète qui est relativement large par rapport au tempi, par rapport aux couleurs à trouver. Donc c'est sûr que il savait que ça pouvait se faire, quoi. Enfin, que c'était jouable, et il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait que ça pouvait être réalisé comme il l'entendait.
Alors après ces périodes-là, cette période de jeunesse, cette période technique, vous êtes entré avec Brahms dans la dernière période, qui est peut-être plus contemplative, avec 30 pièces composées entre 1878 et 1893, en particulier les quatre derniers cycles. C'est un testament pianistique.
Alors, il les appelait les berceuses de ses douleurs. Hein, donc, il sentait certainement que la fin de sa vie approchait, et il a eu le besoin, comme ça, de se confier encore une fois à cet instrument qu'il avait accompagné toute sa vie. Et c'est sûr qu'on retrouve une richesse de langage qui est issu de son écriture de jeunesse, mais en même temps, tout est enrichi harmoniquement, tout est plus fin, plus varié et plus propre à son, enfin encore plus développé dans son univers en fait. Donc c'est quelque chose qui est émouvant de rentrer dans cet univers et de l'enregistrer.
Et on y trouve des fantaisies, des intermezzi, des ballades et même ce qu'on entend là, une romance, cas unique dans toute l'œuvre pianistique, romance en fa majeur. Merci beaucoup Geoffroy Couteau. Je rappelle Brahms, l'intégrale pour piano seul, coffret 6 CD, label La Dolce Volta. C'est à la fois un choc classique, un 4F Télérama et un coup de cœur de la grande table. Vous serez en concert cet été au Festival Chopin de Nohant le 19 juin, au Festival d'Aigalière le 3 juillet, de Saintes le 11 juillet, au Festival de Radio France à Montpellier le 19 et au Festival Messiaen au Pays de la Meije le 30 juillet. Merci beaucoup.
Merci à vous.